Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde « Rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données » organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance.
Leçon 2. Nous sommes notre pire ennemi. Après un début de carrière chez Synthé Labo, Thibaut décide de relever de nouveaux défis en rejoignant les équipes du laboratoire AstraZeneca, où il apportera son expertise pendant 6 ans. Cependant, le cœur de son parcours professionnel se dessine chez Sanofi, une entreprise qui deviendra son foyer professionnel pendant les 16 prochaines années. C'est là que Thibaut se verra offrir l'opportunité passionnante de partir à l'étranger.
Quand je suis arrivé chez Sanofi, ça faisait à peu près 10 ans que je travaillais pour le marché français, entre Synthé Labo, AstraZeneca, je travaillais un peu pour Sanofi pour le marché français. Et là, j'ai eu la chance d'avoir le numéro 2 de chez Sanofi à l'époque, qui m'a dit que j'étais un peu trop français et qu'il fallait que j'aille voir ce qui se passe en dehors de la France. Et du coup, m'a proposé de partir en expatriation aux États-Unis. Donc évidemment, j'en ai parlé à la maison, on a pris cette décision qui n'était pas une décision facile. C'est certain que quand vous avez créé votre famille à Paris, vous avez vos parents, vos beaux-parents qui sont tout près, toute votre famille, tous vos amis depuis une dizaine d'années, voire un peu plus même, parce que ouais, ça faisait plus que ça. Et que là, il faut plier bagages et partir. Moi, je peux vous dire, par exemple, il y a eu beaucoup de larmes, ça c'est certain. Ma femme a pleuré non-stop de Paris jusqu'à JFK. Donc, je me souviens encore des hôtesses qui venaient me voir en me disant « Mais monsieur, il y a un vrai problème avec votre femme, etc. » Mais non, c'était le déracinement, quitter ses parents pour la première fois, partir aussi loin. Et puis, on se retrouve vraiment dans un univers totalement inconnu. Vous n'avez pas de carte de crédit à la banque aux États-Unis. Il fallait qu'on achète une voiture. On faisait tout en voiture. Moi, j'avais ma voiture de fonction que j'étais obligé de prendre pour aller au bureau. Et ma femme se retrouvait plantée à la maison, sans voiture, pour pouvoir se déplacer. Donc c'est dur pour elle parce que elle est privée de sa liberté, elle est privée de son environnement, on connaît personne, on n'était pas du tout dans un quartier français. Et puis petit à petit, bah vous rencontrez des gens, vous renseignez, vous trouvez des façons de faire. C'est pas toujours la meilleure façon de faire, c'est pas toujours la plus économique. Et puis vous arrivez à faire votre trou et à reprendre une vie, on va dire plus normal, mais je me souviens même par exemple de mes enfants qui parlaient pas du tout anglais. Et on a reçu un jour un coup de téléphone d'un de nos enfants qui s'était trompé de toilette et qui avait été dans les toilettes du mauvais côté. Et ça avait fait toute une histoire dans l'école américaine parce que ils avaient écrit boy and girl sur la porte. Mais quand on le dit pas et quand on sait pas l'anglais, donc on leur avait dit aussi un peu, faut peut-être aussi vous mettre à la place de l'autre. Mais ce sont des petites choses comme ça qui font que à la fin, ça met de la tension. Et c'est une épreuve pour une famille parce que vous avez deux façons de faire. C'est soit vous vous soudez, soit ça serre les liens familiaux de façon très forte, ce qui a été notre cas. Et aujourd'hui, nous sommes tous les 5 extrêmement unis et je pense qu'on peut aller n'importe où, dans n'importe quel pays. On se soutiendra toujours parce qu'on sait par quoi on est passé. Je vois mes enfants qui partent aujourd'hui tout seuls, sac à dos, en Amérique du Sud. Ils n'ont pas peur. Ils y vont. Alors, évidemment, quand ils montent dans l'avion, ils disent « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et puis, une fois qu'ils sont sur place, il y a les instincts tout de suite qui reviennent. Donc, on leur a donné ça aussi. Mais c'est vrai que nous aussi, on en a... ça n'a pas été tous les jours facile. Donc, une expatriation, il ne faut pas se dire que tout est beau, tout est simple, tout est facile. Non, il y a des étapes qui sont compliquées. Mais si on est bien entouré, si on a justement la patience aussi, de se dire qu'il faut laisser le temps pour prendre ses repères, pour apprendre son environnement, on y arrive, la preuve. Donc, il y a eu cette phase d'atterrissage qui n'a pas été simple. Et à côté, moi, j'avais un job super intéressant. Je travaillais pour la filiale américaine de Sanofi, où là, j'ai pu découvrir l'environnement américain, la culture américaine. Mais très rapidement, au bout de 2 ans, l'organisation me dit, en fait, vous allez partir à Boston. Donc, on est en train de commencer à faire notre trou dans le New Jersey. Et là, me dit, en fait, on monte une division globale monde en oncologie qui sera basée à Boston. On vient de recruter le patron de cette division. On a besoin de quelqu'un pour l'accompagner et pour l'aider. Vous partez avec votre famille à Boston. Et donc, je me suis retrouvé à recruter des chimistes, à aller louer des paillasses, tout un tas de choses que je n'avais jamais faites. Et au même moment, Sanofi rachète une société qui s'appelle Genzyme à Boston. Très belle société à Boston. Et on me dit, tu vas t'occuper de l'intégration de cette société pour la partie oncologie. Quand j'étais à Boston, j'ai eu la chance aussi d'avoir un boss qui m'a dit à un moment, mais tu sais, Thibaut, tu habites à un quart d'heure de MIT et un quart d'heure d'Harvard Business School. Ça serait quand même dommage de ne pas en profiter. Et donc, il m'a sponsorisé un an de programme à Harvard Business School que j'ai fait en parallèle de mon job. Et là, ça a été une expérience unique et que j'oublierai jamais parce que vous rentrez dans la Mecque de l'éducation. Vous voyez la bibliothèque, vous voyez les infrastructures de salle de sport, votre chambre, où j'ai passé un certain nombre de semaines là-bas. Les gens avec qui vous êtes, qui viennent de pays, de tous les pays du monde. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter? Et ça a été vraiment, pour moi, cette expérience américaine où on arrive en se disant, mais un peu avec le syndrome de l'imposteur, de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter à ces personnes qui parlent extrêmement bien, qui vont vite, qui innovent? Vous réalisez que notre système d'éducation est bien fait, puisqu'on est très bon en analyse, avec un esprit critique, et que du coup, on se complète parfaitement bien avec la culture américaine. La culture américaine, c'est vraiment dans le « let's give it a try », donc on y va, on pousse, on est dans l'action, on avance. Et nous, dans notre culture, on est plutôt à dire, attendez, on va analyser, on va regarder dans quelle direction on va partir, comme ça on est sûr de, si on part, on part au moins dans la bonne direction. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon positionnement, et on prend vraiment le meilleur des deux mondes, où on a cette partie analytique qui est nécessaire, mais on a aussi ce côté de push que les Américains vous donnent, et vous dites, oui, en fait, j'ai pas toutes les réponses, mais allons-y, et puis on apprendra de toute façon en cours de route. Donc j'ai extrêmement appris pendant cette période à déjà se pousser, à aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire naturellement, à innover, à prendre ses responsabilités aussi, puisque quand je suis arrivé aux États-Unis, on m'a tout de suite fait confiance en me donnant des responsabilités importantes que je ne pensais pas pouvoir avoir. J'avais 300 personnes dans des forces de vente à gérer. Je ne pensais pas pouvoir gérer un aussi gros groupe. On m'a dit, si, c'est ta responsabilité. Et puis, à toi de prendre les bonnes décisions. Donc, du coup, vous n'avez pas le choix. Vous êtes d'une certaine façon poussé, vous êtes obligé d'y aller et en fait vous y arrivez. J'ai envie de vous dire, on est son pire ennemi parce que c'est nous qui nous mettons nos propres barrières. On a un peu ce syndrome de l'imposteur au début, puis finalement on voit que dans une réunion on apporte quelque chose et puis on nous écoute et puis on a pris la bonne décision et finalement le groupe le reconnaît. On vous a donné de la confiance et vous avez parfaitement respecté cette confiance en faisant les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on vous a donnés. Donc, vous n'avez pas perdu la confiance qu'on vous a donnée. Donc, on vous donne un crédit d'entrée, ce qui est souvent pas le cas. Souvent, il faut construire cette confiance. Mais là, on vous donne la confiance tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que je reproduis aujourd'hui dans mes équipes, de pousser, d'innover, de prendre ses responsabilités et de pas attendre qu'on vous dise ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire.
Après avoir passé quelques années aux États-Unis, une nouvelle opportunité professionnelle se dessine à l'horizon, offrant à Thibaut la possibilité de partir vers un tout nouveau pays, situé littéralement à l'autre bout du monde, le Japon.
Après les États-Unis, on s'est dit si on revient en France, on n'arrivera plus à bouger. Donc on avait dit, est-ce qu'on pourrait partir soit à Shanghai, soit à Singapour, qui sont deux endroits où on voulait aller. On m'a répondu, oui, tout à fait, vous partez en Asie, vous partez à Tokyo. On m'a dit, c'est pas du tout Shanghai ni Singapour. On dit, vous verrez, c'est très bien aussi. Et on est parti, on est arrivé quelques mois après Fukushima, donc dans un contexte qui n'était pas simple, donc de nouveau, vous bougez votre famille, dans un environnement, je me souviens encore, la première réunion à l'ambassade, l'expert local dit, vous savez, on vient d'avoir Fukushima, dans les 3 ans, il y a une très forte certitude pour qu'on ait le big one. Et le Big One, ce sont des millions de morts au Japon, à Tokyo en particulier. Ça vous met un petit coup de stress. Donc, on a protégé notre famille sans leur raconter tout ça. Mais c'est vrai que le jour où j'ai quitté le Japon, après ma famille, en dernier, j'ai quand même poussé un ouf de soulagement dans l'avion parce que vous êtes pas à l'abri, mais c'est pas une science exacte puisqu'aujourd'hui, ça n'a toujours pas eu lieu. Et j'espère, je touche du bois pour que ça n'arrive jamais. Mais donc, on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre culture. Et on a découvert que très vite, on pensait qu'on était très différent des Japonais, mais qu'en fait, on est très proche des Japonais, nous, les Français. Et on est très proche, pourquoi? Parce que les Japonais ont cette culture du respect des aînés, ce qui est le cas aussi pour nous en France. En France, on n'ouvre pas sa porte facilement à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un Américain le fait peut-être plus spontanément. Nous, en France, on attend de connaître les gens avant de rentrer dans la sphère privée. C'est exactement la même chose avec les Japonais. Et sur un point de vue personnel, c'était extrêmement fort et enrichissant. Sur un point de vue professionnel, plus difficile. Bon, la première année, je suis un peu arrivé avec, avec mon motto américain de « let's give it a try ». Donc, j'ai lancé plein de projets. J'étais allé, au début, responsable marketing. Après, je suis devenu general manager au Japon. Des grosses équipes, beaucoup de produits, beaucoup de priorités. Il y avait 10 partenaires japonais locaux pour des produits, donc tout le temps en interaction. Très complexe. J'ai perdu 4 kilos la première année. Et à la fin de la première année, avant de partir en vacances, l'heure du bilan. Alors, le bilan, c'est très simple. Vous prenez tous vos projets, vous regardez et vous dites, alors, lesquels ont bien avancé, lesquels sont clôturés? Pas un seul. Tiens, tiens. Donc là, je me suis dit, ça ne va pas marcher, en fait. Si je m'épuise, on part dans toutes les directions. Et en fait, l'image que j'ai trouvée, pour résumer la façon dont les choses s'étaient passées la première année, c'est que vous prenez un élastique, vous tendez l'élastique, et à un moment, l'élastique est tellement tendu qu'il va craquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Japonais ne veulent pas que l'élastique il craque. Donc, en fait, les choses commencent à bouger pour mettre moins de tension dans l'élastique. Mais vous partez en déplacement, vous partez en vacances, qu'est-ce qui se passe? L'élastique se détend, vous mettez plus de tension dans l'élastique, hop, donc tout le monde revient au point de départ. Et donc, du coup, vous avancez par à-coup, mais en fait, vous revenez souvent au point de départ. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, la solution, ça a été quoi? Ça a été très peu de priorités, même s'il y avait énormément de sujets, 2-3 priorités très claires. Apprendre aussi à écouter, à décoder le non-verbal, parce que très souvent, on pense qu'on a entendu le problème après 2-3 phrases et puis qu'on connaît, on a l'expérience. Mais souvent, et au Japon encore plus, le déroulé ou la solution se trouve dans la dernière phrase. Donc parfois, il faut que vous laissiez parler des personnes pendant 10 minutes, un quart d'heure, gestion du silence, et la dernière phrase vous donne la clé de tout. Et vous comprenez pourquoi la chose se fait ou ne se fait pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, d'être beaucoup plus dans l'écoute. J'ai aussi appris à être humble, parce que d'une certaine façon, vous ne parlez pas la langue. Vous êtes accepté, vous n'êtes pas chez vous, ce n'est pas votre pays. Donc si vous le faites de façon un peu conquistador, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est quelque chose qui est très fortement aussi regardé par les Japonais. Le côté authentique, le côté est-ce que vous êtes vrai, est-ce que vous êtes là pour l'équipe. Et si vous n'êtes pas vrai, si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, ça se sent. Et là, c'est difficile d'embarquer les équipes. Donc, c'est important d'être aligné, de le dire et de dire je le fais pour l'équipe. Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais vraiment pour le bénéfice de l'équipe. Et aussi, la dernière chose que j'ai appris, c'est ce lien très fort qu'il y a entre certaines personnes. Il y a un respect de choses qui ont été faites, de promotions qui ont été données à certains. Et il y a cette fidélité aussi professionnelle d'un boss qui vous a donné une promotion un jour. Donc, il y a ces liens très forts entre des personnes. Donc, il faut réussir à comprendre et à décoder. Donc, c'est un environnement qui est complexe. Mais si vous êtes vous-même, c'est-à-dire que vous êtes vrai, vous êtes authentique, que vous faites les choses vraiment pour le bénéfice de l'équipe et pour le bénéfice des gens, eh bien, vous arrivez à voir des gens, quand vous retournez au Japon, même après des années, qui font la queue devant votre bureau pour vous donner des cadeaux pour votre famille ou pour vous montrer des parts de marché des produits dont vous gérez plus depuis 3 ans, mais dont ils sont encore fiers. Et, et ça, c'est fort, parce que ça, vous le retrouvez nulle part ailleurs. Dans le monde entier, j'ai travaillé avec beaucoup de pays, on ne le retrouve pas, ça. Donc ça, c'est vraiment une force qu'ils ont.
Après avoir passé 4 années enrichissantes au Japon, Thibaut et sa famille prennent la décision de rentrer en France. Cependant, cette transition qui aurait pu sembler être une simple étape dans un parcours professionnel marqué par le succès, s'avère être un défi inattendu avec son lot de complexité. À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Medcheck Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.